Tech & Co, la quotidienne, la start-up.
Et c'est Emmanuel Lipsic qui est avec nous ce soir. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir.
Vous êtes le CEO de IPFC. Vous êtes une start-up qui a été fondée par deux entrepreneurs, donc vous-même et Thomas Cohen, et rejoint récemment par Guillaume Lacroix, qui est le fondateur de Brut, entre autres. Et IPFC, ça veut dire Intellectual Property for Creators, c'est ça ?
Absolument. On est la première société de gestion collective à gérer les problématiques d'IP sur IA, de propriété intellectuelle.
Voilà, le droit d'auteur.
Exactement.
C'est ça. C'est quoi le problème aujourd'hui des droits d'auteur face à l'IA ?
Alors, on est dans un Far West total. Il faut bien se rendre compte.
Parce qu'il y a un flou juridique aussi qui est monstrueux, non, là-dedans.
Ouais, absolument. On est dans un Far West total. Il faut se rendre compte déjà de l'ampleur des dégâts. Il y a aujourd'hui une statistique, juste un chiffre qui est vraiment parlant. D'ici la fin de l'année, 90% de tous les contenus digitaux passeront en tout ou en partie par l'IA générative. Donc c'est considérable.
Alors ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que l'année dernière, il y avait 10 millions de contenus qui étaient produits par l'IA, donc full IA, qui étaient diffusés sur les réseaux sociaux,
donc,
sur Instagram, sur
vidéo, YouTube. Musique,
absolument.
Photos aussi, j'imagine.
Photos, bien évidemment, il y a des deepfakes dans tous les sens. Et on est passé de 10 millions il y a un an à 80 millions. Ça veut dire 1000 contenus par seconde qui sont produits par l'IA, avec dedans évidemment des problématiques de deepfake et de l'IP, ce qu'on appelle de l'IP, c'est-à-dire de la propriété intellectuelle qui est présente dans tous ces contenus.
D'accord.
De la musique, de la photo, de la vidéo. Et donc on a aujourd'hui une problématique gigantesque avec deux mondes qui n'arrivent pas à se parler. D'un côté, on a une galaxie de créateurs, de talents, de personnalités publiques, d'industries créatives.
D'humains, on va dire.
Exactement, absolument. C'est notre sujet, l'humain.
Ouais.
Donc on a une galaxie de talents humains qui nourrit ces contenus. Et de l'autre côté, on a des IA, des modèles d'IA, d'ailleurs, qui sont protéiformes. Il y a évidemment les gros modèles d'IA, mais il y a des plateformes qui agrègent des technologies d'IA et qui produisent ce contenu et qui cherchent, elles, à rentrer sur le marché régulé. On a donc le marché de la licence. Donc, on a deux mondes qui veulent se rejoindre et qui n'y arrivent pas avec des enjeux considérables dans 5 ans. Puisque le marché de l'IA dans 5 ans, il est estimé à global à 1500 milliards et le marché de l'IP qui va être versé sur cette enveloppe de 1500 milliards, c'est 100 milliards par an. Donc nous, notre objet, c'est de créer des ponts entre ces deux écosystèmes.
Okay.
D'un côté les créateurs, de l'autre côté les modèles d'IA qui veulent rentrer sur la licence et de favoriser cet échange monétaire puisque nos membres sont des créateurs et notre objet, c'est vraiment de créer les conditions favorables de la licence de demain.
Mais comment faire ? C'est-à-dire que là, il faut remettre à plat en fait toutes les lois, toutes les réglementations pour construire quelque chose où l'IA et les droits d'auteur peuvent s'entendre.
Ouais.
Déjà, ça va pas être facile, ça.
Ouais.
Mais vous avez une solution technologique pour ça ou vous êtes simplement des facilitateurs, des médiateurs dans...
En fait, c'est uniquement un changement de point de vue. Il y a un cas d'usage qu'on utilise souvent parce qu'il est parlant. C'est le cas d'usage de Miyazaki. Il y a un peu plus d'un an, le studio oui. Ghibli Miyazaki, OpenAI pour la sortie de son modèle GPT-4, ça a l'air d'être il y a une éternité.
Il y a une éternité. Et c'est vrai que tout le monde s'amusait à faire ces photos comme un peu
à la façon du studio Ghibli. En fait, c'est ce qu'on mettait dans les prompts.
Ouais.
Le prompt, c'est hyper important parce que c'est l'endroit où se crée le contenu.
Ouais.
Et donc, il y a eu en une semaine, à l'époque, 700 millions d'images produites en une semaine. C'est vraiment le premier tube de l'IA. Et dans chacun... Donc, Miyazaki, lui, le pauvre, il n'arrivait pas à faire respecter. Tous ses films ont été absorbés. Et les 700 millions de contenus ont été produits sans qu'il donne son autorisation, évidemment sans qu'il soit rémunéré. Pourquoi ? Parce que les modèles d'IA, et c'est la spécificité de l'IA générative avec la création, c'est qu'elle transforme les œuvres. C'est vraiment le changement majeur, c'est que l'œuvre est transformée, elle perd son statut solide qu'elle a eu pendant si longtemps.
Et donc, incarné par un créateur, ça devient une espèce...
Ça devient un style.
Voilà,
en fait, on extrait des œuvres un style, et les Miyazaki n'est pas protégé dans cette configuration. Pourquoi ? Parce que ce qui est rentré en input est trop différent de ce qui sort en output pour être protégé par le droit d'auteur et le copyright. Donc le marqueur historique, l'œuvre, ne fonctionne répondent plus. Et nous, là où on intervient pour protéger et rémunérer, c'est en changeant de paradigme. On est très pragmatique. On regarde quel est le marqueur qui est utilisé systématiquement dans l'IA générative. C'est le nom au moment du prompt. Et c'est ça qu'on protège. Si je reviens à l'exemple de Miyazaki, 700 millions d'images, sans aucune exception, dans les prompts, il a été mentionné le nom Ghibli ou Miyazaki. Et c'est ce nom qu'on protège.
D'accord.
Puisque l'idée, c'est avec IPFC, on n'est pas une solution technique, on est vraiment une société de gestion collective, c'est okay. Très particulier. Comme modèle, c'est un très beau modèle. C'est un modèle français historiquement. Et on l'adapte aux problématiques d'aujourd'hui. Et donc nous, notre angle, c'est de d'avoir des membres, des industries créatives, des créateurs, des personnalités publiques sur des industries transversales, la musique, le cinéma, le sport, le luxe, qui ont tous en commun d'avoir leur nom qui est appelé par l'IA générative. Donc ils inscrivent leur nom chez nous et ça, on leur offre des services de protection parce que ça commence comme ça. Pour ouvrir à la licence demain, il faut d'abord protéger son IP. Aujourd'hui, c'est le Far West, donc on commence par protéger l'IP.
Comment réagissent les OpenAI, les Google? Parce que c'est eux qui ont la clé, en fait.
Absolument. Nous, on parle à ces deux écosystèmes, donc les créateurs d'un côté et les modèles d'IA de l'autre.
Mais oui.
Ce qui est très intéressant, c'est qu'on est dans ce qu'on appelle le moment Napster-Spotify. On a bien cette image, le premier acteur régulé prend le marché. Donc il y a une course en réalité. L'image qu'on a aujourd'hui de l'IA qui vole, qui pille, etc., c'est pas du tout ça la réalité du marché. C'est comment accéder de manière régulée à un écosystème créatif de façon simple. Et il n'y a pas de solution qui existe dans le monde entier. On est la première société de gestion collective au monde à organiser les échanges avec cette colonne vertébrale du nom dans le prompt. Et c'est très efficace parce qu'on est contacté par des grands modèles internationaux et d'autres petits modèles, d'autres plateformes. Donc il y a des usages B2C, des usages B2B. Donc on observe la place stratégique que prennent chacun des
modèles. Oui, et puis je pense que c'est même pour les grands modèles leur intérêt de régler ce souci-là, parce qu'au bout d'un moment, ça va leur coûter très cher, je pense. Et s'ils veulent gagner une espèce de légitimité à être numéro un, il va falloir qu'ils rentrent un peu dans le rang, finalement.
Oui, mais c'est pas cette façon de rentrer dans le rang. C'est une façon de voir qui est un petit peu datée déjà.
Oui.
En fait, elles veulent être les premières à proposer de la licence. Donc, il y a des cas d'usage B2B. Je peux donner un exemple pour qu'on comprenne bien. On était à Cannes la semaine dernière, donc on était sur le sujet du cinéma. Si une IA de scénario veut utiliser des scénaristes connus, des Aaron Sorkin, etc., comme Script Doctor, ou pour aider à réaliser un scénario, ben en fait, les scénaristes peuvent décider d'ouvrir à la licence. Et ce qui est très intéressant, c'est que le scénario qui en résulte devient une nouvelle œuvre dans laquelle le scénariste qui a été prompté, lui, il devient partie prenante de cette
œuvre. Tout à fait. Et donc, il est rémunéré et il est, il est auteur, en fait, de cette...
Moi, je viens du milieu de la musique. Donc, à l'époque, nous, il y a toujours un peu d'avance avec la musique. Donc, à l'époque, il y avait le sample dans le hip-hop et c'est un peu la version... XXL du sample.
Exactement. Et on se souvient qu'au début, le sample, c'était tout le monde criait au scandale, parce que c'était.
Exactement.
On se souvient de plein de chansons, évidemment, qui avaient marqué les esprits. Merci beaucoup, Emmanuel Lipsic, CEO donc de IPFC. Très intéressant comme sujet, évidemment, qui n'en est qu'à son début, donc on aura l'occasion d'en reparler.